Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Maïlys Besri, bonjour à tous. À Hong Kong, l'aéroport suspend à nouveau toutes les procédures d'enregistrement au départ. Tous les vols sont annulés. Des manifestants pro-démocratie bloquent les terminaux pour la deuxième fois en deux jours. Nous ferons le point avec Nathanaël Charbonnier. En France, l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois tire la sonnette d'alarme. Il a du mal à faire face aux factures qui s'accumulent et à la dette qui grandit. Il est en risque de rupture de stock sur certains médicaments qui ne sont pas livrés. Nous entendrons le reportage d'Agera Mohamed. Un favori et deux autres compétiteurs. Voici l'affiche de l'élection interne pour désigner le prochain président du parti Les Républicains. Le scrutin aura lieu à partir du 12 octobre prochain. Christian Jacob apparaît comme le choix le plus probable. Les députés Guillaume Larrivé et Julien Aubert ont également aujourd'hui déposé leur candidature. Analyse à suivre avec Nicolas Balu. Et puis dans la grande table à 12h45, Maïlys Besri, vous nous parlerez de l'exposition Paris-Londres Music Migrations du musée de l'histoire de l'immigration. Nous entendrons également le portrait de l'auteure irlandaise Anne Griffin. Le cri d'alerte tout d'abord des médecins de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. 80 d'entre eux, pour la plupart des chefs de service, viennent d'adresser un courrier à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour alerter sur les risques de rupture de stock de certains médicaments. Certains fournisseurs refusent en effet de livrer l'établissement pour cause d'impayés. Il faut dire à Gérard Mohamed que l'hôpital d'Aulnay a une grosse dette à éponger et que la liste des factures à régler s'allonge.
Nous constatons que les factures suivantes ne nous ont pas été payées. Vous êtes redevable de la somme de 28 600 euros.
Des messages comme ça de fournisseurs qui s'impatientent. Bernadette Corré-Houbar, chef de la pharmacie de l'hôpital, en a reçu plus de 1200 depuis le début de l'année.
J'ai deux comptables plus une secrétaire qui passent la moitié de leur journée à faire ça. À répondre aux fournisseurs, à appeler le service financier de l'hôpital pour qu'il débloque un petit peu d'argent.
Le problème, c'est que l'hôpital n'a pas vraiment d'argent. Au contraire, avec une dette globale de 30 millions d'euros, les impayés augmentent. Et ajoutez à ça le problème d'effectifs.
Quand déjà on a du mal à prendre en charge les patients parce qu'on n'a pas assez de médecins et qu'en plus on doit pleurer pour avoir des médicaments, pour avoir du papier pour mettre dans l'imprimante, pour avoir du désinfectant pour nettoyer les lits, pour tout ça. Et plus on travaille et plus on nous découvre du déficit.
Et quand les stocks sont au plus bas, pour les équipes, c'est souvent le système D.
Soit on trouve des alternatives thérapeutiques, si c'est des traitements qui sont proches. Si c'est pas le cas, on ira le chercher dans un hôpital voisin.
Pour le moment, on parle bien d'un risque de pénurie. On n'y est pas encore et c'est bien pour éviter d'en arriver là que ces médecins alertent l'ARS.
Moi, ce que je pense, c'est que malheureusement, tant qu'on aura pas été recapitalisé, on s'en sortira pas.
Encore un peu d'argent donc pour respirer, alors que l'Agence régionale de santé a déjà accordé cette année une dotation exceptionnelle de 6 millions d'euros à l'hôpital d'Aulnay.
Reportage signé Agera Mohamed. Ils sont donc trois à candidater au poste de président du parti Les Républicains. Christian Jacob, le grand favori, a déposé ses parrainages hier. Guillaume Larrivé et Julien Aubert l'ont fait quant à eux aujourd'hui. C'est à partir du 12 octobre prochain que les militants choisiront l'un des trois donc pour succéder à Laurent Wauquiez et mener la bataille des municipales. Bonjour Nicolas Balu.
Bonjour Ilan.
Le défi, c'est de sauver le parti, ni plus ni moins.
À sauver le parti et le ramener vers le pouvoir. L'un des candidats, Guillaume Larrivé, le dit plus stratégiquement, il ne faut pas faire de LR un parti anti-Macron, mais un parti de l'après-Macron. Voilà qui ressemble à une longue marche et l'élection d'un chef au parti Les Républicains n'est que le premier pas. Il fait assez peu de doutes. C'est vrai que Christian Jacob en sortira vainqueur, même si ses adversaires du moment veulent croire à une surprise. Julien Aubert et Guillaume Larrivé font savoir que le nombre de parrainages qu'ils ont reçus est plus important que nécessaire. Autour de 4500 pour le député du Vaucluse, plus de 3000 pour le député de Lyon. C'est une bataille de communication traditionnelle à ce stade et ils sont évidemment loin de Christian Jacob et de ses 10 500 parrainages. Le président des députés LR à l'Assemblée est aujourd'hui consensuel. Il n'a pas d'ambition présidentielle, dit-il, mais il ne représente pas l'avenir, ce que peuvent prétendre incarner les deux cadras que sont Guillaume Larrivé et Julien Aubert. Le premier étant plus libéral, le second plus souverainiste. Leur problème, c'est que l'avenir de LR, c'est aussi le comité de renouvellement créé par de jeunes élus du parti. Le député Aurélien Pradi en tête, qui a fait le choix de s'engager derrière Christian Jacob. Quels que soient les candidats validés fin août et quel que soit le président élu en octobre, sauver le parti commencera par sauver les élus au municipal et s'appuyer sur eux pour la suite. Puis enfin, également organiser la désignation d'un candidat pour 2022. Pour le moment, La pré-campagne interne semble se dérouler dans une ambiance plutôt feutrée. Tous veulent montrer que le temps de la guerre Copé-Fillon est révolu. C'est une condition sine qua non pour sauver le parti.
Merci à vous Nicolas Ballu. C'est le coup d'envoi aujourd'hui de la consultation des maires lancée par la commission des lois du Sénat. L'objectif c'est de savoir s'ils ont été victimes de violences ou d'incivilités dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Un courrier accompagné d'un questionnaire a été envoyé à ce jour à l'ensemble des édiles. Une plateforme de consultation en ligne a également été ouverte sur le site du Sénat. Les maires ont jusqu'au 15 septembre pour répondre. À Guéret dans la Creuse, le portrait du député agriculteur à LREM Jean-Baptiste Moreau a été placardé dans plusieurs rues de la ville. L'affiche se présente comme un avis de recherche, Wanted JB Moreau, accompagné de cette inscription, haute trahison, complicité d'empoisonnement, léchage de bottes jupitériennes, fin de citation. Une affiche qui pourrait faire référence au CETA que le député a voté. Voici sa réaction sur Twitter. Il ne manque plus que Dead or Alive. Je suis pourtant facile à trouver et je n'ai jamais refusé de rendez-vous. Cette stigmatisation des élus va mal finir, fin de citation. Il a annoncé son intention de déposer plainte. À Hong Kong, ils sont toujours des centaines de militants pro-démocratie à manifester aujourd'hui à l'aéroport international pour demander donc plus de démocratie et dénoncer également les violences policières. Les enregistrements des vols avaient recommencé depuis l'aube, mais les manifestants ont bloqué des passagers et l'aéroport a finalement suspendu les procédures d'enregistrement pour tous ces vols qui sont donc annulés aujourd'hui à nouveau, comme c'était le cas hier. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour Hélène.
L'aéroport hongkongais, il faut le dire, est l'un des plus fréquentés de la planète et donc sur place, on l'a compris, la situation se tend considérablement.
Ben oui, vous avez vu l'aéroport de Hong Kong, ce sont 73 millions de passagers par an. C'est le 8e aéroport le plus fréquenté au monde et surtout le premier en matière de fret aérien. C'est dire si la fermeture, même partielle, n'est pas anodine. La principale compagnie du territoire, Cathay Pacific, a indiqué sur son site internet avoir annulé plus de 200 vols à destination et en partance de l'aéroport de Hong Kong. Plus largement, de nombreuses compagnies aériennes comme Vietnam Airlines, Jetstar Pacific ou encore Malaysian Airlines conseillent tout simplement à leurs clients de reporter leur voyage. Il faut dire que sur place, la situation se tend et semble devenir surtout de plus en plus incontrôlable. Souvenez-vous, il y a quelques semaines encore, les Hongkongais se retrouvaient le week-end seulement pour manifester. Or, depuis cette semaine, les actions de protestation sont quotidiennes. Elles sont aussi de plus en plus perturbantes pour la vie de l'ancienne colonie britannique. Si bien que ce matin, lors d'une conférence de presse, la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a mis en garde contre les conséquences économiques et politiques de la situation, qui une nouvelle fois a appelé au calme, alors que Pékin montre de plus en plus son impatience.
Merci à vous, Nathanaël Charbonnier. De son côté, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, s'est déclarée préoccupée par la répression des manifestations pro-démocratie à Hong Kong et elle a réclamé une enquête impartiale. Y aura-t-il des élections législatives anticipées au Venezuela afin de renouveler le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition ? En principe, ce scrutin est censé se dérouler en 2020, mais l'Assemblée constituante du Venezuela, proche du président Nicolas Maduro, annonce qu'elle envisage donc d'avancer ce scrutin dans le temps. Une décision que le président du Parlement, Juan Guaido, qualifie d'illégale. Les précisions de Nadine Epstein.
Le président Nicolas Maduro voit chaque jour son pouvoir et son pays sombrer. Près de 4 millions d'exilés, une inflation à 7 chiffres, des sanctions bancaires, financières, pétrolières, diplomatiques, une option militaire des USA non écartée et une opposition politique interne qui ne lâche pas prise, appuyée par une cinquantaine d'États américains, européens et latinos. Ils ont reconnu Juan Guaido qui s'est autoproclamé en janvier dernier président par intérim. Tout semble en marche pour faire tomber le dirigeant socialiste, mais celui-ci s'accroche au pouvoir, soutenu par les militaires, une partie de la population, la Chine, la Russie et Cuba. Dans cette situation, Nicolas Maduro tente une contre-attaque en envisageant d'avancer le scrutin parlementaire et l'un de ses proches, le président de l'Assemblée constituante, d'expliquer « Je vais proposer une commission pour évaluer conformément à la loi, à la constitution, à la situation politique de notre pays, avec des consultations de tous les organismes, du peuple, de la rue, quand sera le meilleur moment de procéder à ces élections ?» Il a également adressé un avertissement direct à Juan Guaido et a conseillé aux députés de l'opposition de ne pas partir en vacances, je cite, « parce que nous allons vous rendre la vie impossible au cours de ce mois ». Les législatives sont prévues à la fin de l'année prochaine. En 2015, c'est l'opposition qui avait gagné et prenait le contrôle de l'Assemblée nationale pour la première fois depuis 16 ans. Mais en 2017, le président vénézuélien a organisé une élection et mis en place l'Assemblée constituante.
Nadine Epstein. S'il me respecte, je le respecte. S'il me traite mal, je le traite mal. Voici comment le nouveau président guatémaltèque Alejandro Giammattei conçoit ses futures relations avec Donald Trump, le président américain. Dans un entretien à l'AFP, Giammattei évoque le fameux accord migratoire conclu entre Washington et le président sortant du Guatemala, Jimmy Morales, accord qui a suscité un tollé. Selon ce pacte, signé sous la menace de sanctions économiques, le petit pays d'Amérique centrale doit dorénavant accueillir les premières démarches de demandeurs d'asile qui cherchent à immigrer aux États-Unis. Alors pour Giammattei, je cite, « La problématique migratoire a été grossie car elle est devenue un thème de campagne politique aux États-Unis. Le nouveau président ne dénonce pas officiellement le pacte, mais il affirme qu'il va devoir être soumis à l'approbation des parlementaires guatémaltèques. » Pourquoi l'ex-président du Kyrgyzstan, Almazbek Atambayev, a-t-il été arrêté la semaine dernière à la suite d'une opération des forces du pays? Son intention était de faire un coup d'État, je le dis officiellement, c'est ce que déclare aujourd'hui le chef du service national de sécurité du Kyrgyzstan. L'ancien chef d'État, placé en détention provisoire jusqu'au 26 août, s'était vu initialement reprocher l'acquisition illégale de terres et la libération d'un chef mafieux sous sa présidence en 2013. De son côté, il qualifie ces accusations d'absurdes et il estime être victime d'un conflit personnel avec son successeur et rival, l'actuel président Jeenbekov. C'est un cas extrême de séparation conjugale, l'enlèvement parental ou lorsque l'un des deux parents décide de fuir avec son enfant. En France, cette situation est régie par la loi, mais ailleurs, au Japon par exemple, cette pratique est encore largement tolérée par les autorités. Une avocate française spécialiste en droit pénal international vient de saisir le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour dénoncer cette situation dont 150 000 enfants seraient victimes chaque année. Elle réclame la nomination d'un expert indépendant et l'adoption d'une résolution internationale. Écoutez Maître Jessica Finel, avocate au barreau de Paris.
Dans le cas d'une séparation, un des deux parents, et dans 90% des cas la mère, disparaît, c'est-à-dire coupe tout contact avec le père. Et la plainte qui sera ensuite déposée pour enlèvement d'enfant par l'autre parent restera sans suite, puisqu'en fait la police refusera de prendre la plainte, considérant que c'est une affaire purement privée. Et puis par la suite, les tribunaux japonais récompenseront le parent qui a enlevé l'enfant, en considérant que l'enfant, ayant passé un certain temps avec son parent kidnappeur, eh bien il ne faut surtout pas perturber son environnement. C'est le parent qui a enlevé l'enfant qui obtiendra la garde de l'enfant, et l'autre parent se retrouve vraiment nié dans son rôle de parent. Les autorités japonaises doivent être tenues responsables parce que finalement, elles maintiennent un système qui encourage finalement les parents à enlever un enfant dans le cadre d'une séparation et à couper ses enfants de l'autre parent. Et donc, nous demandons au Conseil des droits de l'homme de s'en saisir dans le sens où, au Japon, nous n'avons plus d'espoir. Ces pères ont tout essayé. Donc, nous essayons, à travers cette requête, de porter leur voix.
Des propos recueillis par Lisa Guyenne. Faut-il avoir peur du moustique tigre? On sait que la France est concernée par sa présence. Il a même colonisé la moitié des départements et il porte avec lui des virus comme la dengue ou le chikungunya. Ce mois-ci, une troisième opération de démoustication s'est déroulée autour de l'hôpital de Bergerac en Dordogne. Deux cas de dengue importés des Antilles avaient été identifiés. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
En France, les campagnes paraissent plutôt efficaces, mais plusieurs questions se posent néanmoins autour de cette démoustication.
Dès qu'un cas est repéré, et il y a eu par exemple 333 malade de la dengue en France l'an passé, les autorités sanitaires lancent une enquête pour localiser les lieux de ponte ou la présence de moustiques tigres adultes et, sans même attendre le résultat des analyses de sang, pourtant nécessaires pour confirmer la présence du virus dengue ou chikungunya chez le patient, eh bien on lance une opération de démoustication. C'est effectivement efficace, mais les experts de Santé publique France, qui ont compilé des données depuis maintenant 15 ans, plaident pour un changement de méthode. Florian Franck est épidémiologiste à Marseille.
Ce qu'on préconise, en fait, c'est une intervention simplement une fois que le cas est confirmé. Et comme ça, vraiment cibler les interventions autour des vrais cas et donc éviter des traitements insecticides inutiles. Comme on n'a pas 36 produits à disposition pour lutter contre les moustiques, il faut éviter à tout prix que le moustique développe des résistances à l'insecticide qu'on va utiliser.
Ce risque de résistance est bien réel. Néanmoins, notre méthode de traitement a fait ses preuves. Ainsi, bien que 333 malades, comme je l'ai dit, aient importé la dengue en France l'an passé, en se faisant piquer à l'étranger, il n'y a eu que 8 transmissions locales, donc 8 piqûres d'un moustique tigre qui a véhiculé le virus chez nous. Tout est donc une question d'équilibre, rappelle Florian Franck de Santé publique France.
Je sais qu'on va extrêmement loin dans notre dispositif, d'où son efficacité. La circulation autochtone la plus importante fait 17 cas de chikungunya dans le Var en 2017. On voit par exemple que chez nos collègues italiens, Il y a eu des épisodes avec plusieurs centaines de cas.
Et notamment en 2017, évidemment l'ampleur d'une contamination dépend aussi de la densité de moustiques, donc des conditions climatiques qui sont encore plus chaudes chez nos voisins italiens.
Merci à vous Tara Schlegel. Ciel un peu nuageux et pluvieux tout au nord du pays, partout ailleurs c'est du beau temps. Les maximales iront globalement de 18 à 31 degrés. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue. Il a été réalisé à la technique par Alice Seyed.